Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Bienji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés et vous êtes à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Pour vous servir une fois de plus, derrière ce microphone, je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur, pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Et juste à mes côtés, une fois de plus, le frère Yannick, qui a encore honoré le rendez-vous de ce jour. Et sans plus tarder, frère Yannick, je voudrais te passer la parole en te souhaitant une fois de plus la bienvenue et que le Seigneur te bénisse abondamment.
Amen, bien-aimé. À tout temps, sois béni.
Amen.
Et je voudrais aussi profiter pour dire à ceux-là qui nous écoutent que si le Seigneur a permis que nous puissions être là, je vous invite tout simplement d'être connectés pour recevoir ces bénédictions. Amen.
Amen. Et tout se déroule sous l'œil très très vigilant, très très attentif de Sa Majesté, Son Excellence, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, celui qui ne change pas, toujours imité mais jamais égalé, le Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, mesdames et messieurs, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le magnifique et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Jésus, sois béni pour ces merveilleux privilèges que tu nous accordes encore une fois de plus, non seulement d'être encore debout parmi les vivants, mais surtout de passer un peu de notre temps dans ta sainte parole, dans ta sainte présence, parce que, Seigneur, un instant dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Sois également béni pour toutes ces multitudes qui sont à l'écoute à ce moment-ci. Merci de prendre le total contrôle de tout ce qui va se faire dans les moindres détails. Merci de bénir toutes ces multitudes où, Seigneur, qu'elles se trouvent bénies, les et bénis également ta parole qui sera encore proclamée en esprit et en vérité. Seigneur, laisse que ce moment puisse être vraiment un moment très très édifiant et très très bénéfique pour toutes ces multitudes. Seigneur, que tout esprit des mauvaises interprétations, des mauvaises compréhensions qui se lèvera de quelque manière que ce soit anéanti complètement avec ses plans, ses œuvres et ses actions dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit du Dieu vivant, prends vraiment le total contrôle et laisse que cette parole qui va être proclamée, qui est la vérité biblique, puisse vraiment accomplir ce pourquoi elle est sortie, parce qu'il est écrit que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. De la même manière que la pluie ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, Seigneur, il en est de même pour ta parole. Elle ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur Jésus parce que tu le feras. Merci parce que tu béniras ce moment. Tu béniras toutes ces multitudes et toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce vont te revenir à toi et rien qu'à toi seul. Maintenant et pour toujours. Amen. Vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Vous le savez déjà. L'heure de la vérité, c'est ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Oui, la vérité biblique sans compromis et sans concession. Étant donné que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous allons continuer, comme promis, à nous intéresser à ces petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Mais avant de commencer, je voudrais nous inviter une fois de plus à lire dans Romains chapitre 1er, nous avons eu à lire cette portion des Saintes Écritures la dernière fois, nous allons y revenir. Une fois de plus, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes encouragés à avoir un stylo et sur quoi noter. Parce que c'est toujours très très important que votre foi soit fondée uniquement sur la vérité biblique. Oui, notez tous ces versets et après vous pouvez prendre tout votre temps de lire et relire et vérifier. Nous sommes dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 18 où il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Oui, la Bible nous dit clairement ici que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux-là qui retiennent la vérité captive. Oui, si nous prêchons la vérité biblique, c'est aussi parce que ceux-là qui retiennent la vérité, la Bible nous dit qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Oui, lorsque les gens retiennent la vérité captive, ils ne savent pas qu'ils sont sous la colère de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, retenir la vérité captive? Quelques exemples en passant. Lorsqu'on connaît la vérité, mais que l'on décide expressément de maintenir les gens dans l'ignorance, parce que en les prêchant la vérité, peut-être qu'on va perdre certains intérêts égoïstes et personnels, c'est retenir la vérité captive. Oui, lorsqu'on connaît la vérité et qu'on ne veut pas prêcher cette vérité, peut-être parce qu'on a peur de perdre certaines personnes ou certains membres de l'église ou de la religion, c'est retenir la vérité captive, tout simplement. Oui, lorsqu'on a la vérité et qu'on refuse aux gens d'avoir accès à cette vérité, c'est retenir la vérité captive. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, certaines religions ne veulent pas que les gens lisent la Bible ou bien certaines personnes, certaines religions avaient fait expressement que les gens n'aient pas la parole de Dieu. Et ces religions allaient parfois jusqu'à persécuter ceux qui étaient trouvés en possession d'une Bible. Et certains allaient jusqu'à dire qu'il était inutile de lire la Bible puisque c'est un livre très très compliqué. Il n'y a que les spécialistes, ceux qui ont fait des écoles théologiques pour la lire et comprendre. Ça, c'est une forme de la captivité de l'évangile. C'est pour cette raison que personnellement, je vous encourage toujours à avoir une Bible et prendre de temps en temps un temps pour pouvoir la lire, la méditer personnellement. Parce que je suis convaincu qu'en lisant la Bible et en l'étudiant, vous allez découvrir beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui retiennent injustement la vérité captive, de peur que connaissant la vérité, peut-être vous allez abandonner les systèmes religieux, les milieux religieux, bien que vous allez découvrir les enseignements ou des doctrines qui ne sont que les dogmes de leur religion, qui ne sont que la sagesse ou la philosophie des hommes, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu à proprement dite. Et nous sommes à la fin de temps, et l'une des choses qui doit caractériser la fin de temps, c'est le fait que les gens abandonnent la parole de Dieu pour s'attacher à des fables et à des philosophies humaines et surtout à des traditions des hommes. C'est pour cette raison que je tiens à nous rappeler toutes ces choses. Et toujours dans ce chapitre premier de Romains, la Bible va nous dire que nous sommes cette fois-ci au verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Nous voyons ici que la Bible nous dit clairement que certaines personnes changent expressement la vérité de Dieu en mensonge. Beaucoup décident même volontairement de servir et d'adorer la créature au lieu du Créateur. Je vais prendre un exemple. Lorsque les gens se prosternent devant les statues, les images taillées, la Bible nous dit que ça, c'est abandonner le Créateur pour se tourner vers la créature, l'œuvre des hommes. Et ce qui est curieux, c'est que c'est même dans certains temples où on est censé adorer Dieu qu'on retrouve des images taillées, des statues. Ce n'est pas du tout normal. Et nous sommes là pour vous alerter. Vous ne deviez pas abandonner le Créateur pour vous prosterner devant la créature. Parce que les statues et autres sont des créatures, sont les œuvres humaines. Et ces choses-là ne méritent pas du tout les honneurs de quelque manière que ce soit. C'est Dieu seul qui mérite tout honneur ou toute révérence. Très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez l'aide de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser à notre première histoire. C'est l'histoire d'un cultivateur qui est venu voir un pasteur et lui a demandé de prier parce que ça faisait déjà au moins 2 ans qu'il n'avait pas plu et c'était vraiment la sécheresse totale. Et il a demandé au pasteur de prier afin que Dieu puisse envoyer la pluie parce que lorsqu'il ne pleut pas, vous pouvez imaginer pas de récoltes et parfois la famine menace. Et ils ont réellement prier le Seigneur afin qu'il puisse faire quelque chose. Et voilà qu'entre-temps, il n'a pas plu. Et cet homme qui était venu voir le pasteur était vraiment déçu et même frustré du fait que Dieu n'a pas envoyé la pluie. Et comme Dieu n'avait pas envoyé la pluie, il savait déjà qu'une fois de plus, les récoltes seront très très mauvaise. Et pour lui, c'était un peu injuste de la part de Dieu de ne pas exaucer sa prière. Mais peu de temps après, il est revenu, il a vu le pasteur et il a dit au pasteur, c'est vrai que Dieu n'avait pas envoyé la pluie pour arroser nos champs. Mais il avait néanmoins écouté nos prières. J'étais loin d'imaginer qu'il avait écouté nos prières. Parce que à la récolte, j'ai constaté que les ignames étaient tellement bien grosses et tout ce qui était dans mon champ était vraiment bien par rapport aux autres. J'étais d'ailleurs la seule personne qui a fait une bonne récolte. Et j'ai compris que Dieu en réalité avait exaucé ma prière. Mais pas comme je l'imaginais. J'avais plutôt demandé que Dieu envoie la pluie. Mais Dieu, au lieu d'envoyer la pluie, a plutôt béni mon champ. Et il a reçu beaucoup de leçons à partir de cela. Et nous aussi, très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, nous pouvons également tirer beaucoup de leçons dans l'histoire de ce cultivateur. Et nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15. La première épître de Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15. Frère Yannick, si tu as la page, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, qu'elle soit. Parole du Seigneur.
Amen. Il est écrit dans cette portion de Sainte Écriture de 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15, que nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Oui, Dieu exauce nos prières, mais pas comme nous l'avons planifié. Parce que le problème, c'est que parfois, lorsque nous prions, nous voulons donner une orientation à Dieu. Comment est-ce qu'il va agir ou exaucer nos prières? Ce n'est pas de cette façon que ça se passe, mesdames et messieurs. Dieu est d'abord souverain. Et sa sagesse est infiniment variée. Lorsque nous le prions, nous devons tout simplement lui faire confiance et avoir foi. Dieu ne vient jamais ni très tôt, ni en retard. Il exauce toujours les prières, mais à sa manière. La seule chose qui nous reste à faire chaque fois que nous prions, c'est lui faire confiance et le laisser agir selon sa sagesse. Oui, Dieu exauce toujours nos prières, mais pas comme nous le voulons. L'exemple de cet homme, lorsqu'il avait demandé la pluie et qu'il n'avait pas plu, il a commencé à vouloir maudire Dieu. Mais Dieu savait que s'il avait demandé la pluie, ce n'était pas juste pour le plaisir d'avoir la pluie. C'est parce qu'il voulait avoir une bonne récolte. Dieu n'avait pas envoyé la pluie, mais Dieu avait tout de même béni son champ. Dieu l'avait exaucé, mais autrement que ce qu'il avait planifié. Donc Dieu connaît même nos soupirs. Parfois, nous pouvons demander, mais Dieu ne se limite pas seulement à nos paroles. Il va au-delà, parfois même, nos soupirs. Dieu exauce parfois même nos soupirs. Et parfois, ce que nous soupirons, nous n'arrivons même pas à exprimer réellement avec nos paroles. Parce que nous sommes vraiment limités. Et nous allons également lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 34. Écoutez attentivement cette portion de Sainte Écriture. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 34. Frère Yannick, si tu es à la page, tu vas lire pour nous tous.
Il est écrit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.
Amen. Que c'est tellement merveilleux, ces paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est même le secret du succès, le secret de la réussite pour avoir tout ce dont nous avons besoin au quotidien. Dans cette portion de Sainte Écriture de Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne beaucoup de choses. Il dit particulièrement au verset 33 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Et le Seigneur ira même jusqu'à dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur Jésus nous rassure ici que Dieu sait que nous avons besoin de nous habiller, que Dieu sait que nous avons besoin de manger. La seule chose qu'il nous demande, c'est de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données gracieusement par-dessus tout. Que c'est tellement merveilleux. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous n'avez même pas du tout besoin de compromettre votre vie à cause de certains besoins. Cherchez tout simplement le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu vous promet qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Dieu dit que les oiseaux n'ont pas de grenier. Ils ne travaillent pas. Ils ne cultivent pas. Mais Dieu prend soin d'eux. Et le Seigneur dira que vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Donc, par vos inquiétudes, vous ne résolvez aucun problème. Bien au contraire, vous vous détruisez. Parce que les inquiétudes n'ont jamais résolu un seul problème sur la terre. Alléluia. Le Seigneur nous dit clairement ici que lorsqu'il a créé l'estomac, il savait bien que cet estomac a besoin d'être rempli jour après jour. Et il n'a pas oublié de faire pousser les maniocs, les patates, les macabos, le maïs. Que c'est vraiment merveilleux. Très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez l'aide de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui peuvent nous donner des grandes leçons pour la vie. Et cette autre histoire, c'est l'histoire d'un ouvrier qui a refusé un travail. En fait, l'histoire est tout simplement la suivante. Un jour, son patron a eu un arrivage et il fallait aller décharger le conteneur. Et le patron a invité tous ses ouvriers à se mobiliser pour aller faire ce déchargement. Et il y a un des ouvriers qui a refusé d'aller. Tout simplement parce que ce jour n'était pas son jour de travail et surtout c'était un jour où il avait l'habitude d'aller prier et adorer son Dieu. Et il a carrément dit à son patron qu'il ne pouvait pas aller faire ce travail. Et voilà que le patron s'est fâché et lui a dit, tu sais très bien qu'en refusant d'aller travailler, tu es en train de t'exposer au renvoi. Et cet ouvrier lui a répondu, c'est vrai que j'ai une maman veuve et que je suis tenu de prendre soin d'elle jour après jour. Mais ce jour-ci, ce n'est pas mon jour de travail, c'est mon jour d'adoration. J'ai plutôt un rendez-vous avec mon Dieu. Et pour cette raison, je ne peux pas aller faire ce travail aujourd'hui. Et voilà, le patron va lui dire, va à la caisse et prends tout ce que nous vous devons. C'est ainsi que cet ouvrier sera renvoyé. Et après son renvoi, naturellement, il était au chômage. Et voilà qu'entre-temps, cet homme avait un ami qui était un banquier. Et ce banquier lui a dit qu'il avait besoin de quelqu'un comme caissier dans sa banque. Et après avoir réfléchi longuement, il va lui proposer cet ouvrier qu'il avait renvoyé. Et le banquier, tout surpris et étonné, va lui dire, « Mais je crois savoir que tu l'avais renvoyé, tu l'avais chassé de chez toi. » Et il va lui répondre, « C'est vrai, je l'avais renvoyé tout simplement à cause de ses principes. » Lorsque quelqu'un est capable de perdre son travail, tout simplement à cause de ses principes, surtout parce qu'il ne veut pas travailler ce jour qu'il a rendez-vous avec son Dieu, je crois que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui mérite de garder votre argent. Et c'est ainsi qu'on va faire appel à cet ouvrier qui avait été renvoyé. Il ne sera plus un ouvrier. Désormais, il va travailler dans une banque comme caissier. Très cher Jésus-Christ, très cher Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que Dieu honore celui qui l'honore. Si vous honorez Dieu, Dieu ne manquera pas de vous honorer. C'est ce que nous ignorons parfois. Beaucoup de gens ne veulent pas honorer Dieu tout simplement à cause de certains intérêts passagers de la terre, parce qu'ils ont peur de perdre certains petits privilèges de ce monde. Mais ils ignorent que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui honore, c'est Dieu qui élève. Dieu doit avoir la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Et en réalité, lorsque Dieu a la première place dans vos cœurs, dans vos vies, lorsque Dieu voit vraiment que vous l'honorez, au point même de perdre votre travail à cause de lui, à cause de son nom, Dieu ne manquera pas de vous honorer en retour. D'ailleurs, nous allons sans plus tarder lire cela dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Frère Yannick, si tu as la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Parole du Seigneur.
Amen. Dieu dit que même s'il vous a fait une promesse, si vous ne l'honorez pas, ne soyez pas surpris même que la promesse que Dieu vous avait faite, qu'il ne l'accomplisse pas. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Mais pour que nous puissions jouir de ces promesses, nous devions savoir que nous devions honorer Dieu dans tout ce que nous faisons pour pouvoir hériter de ses promesses, pour pouvoir bénéficier de ses promesses. Beaucoup de gens sur la terre n'expérimentent pas les bénédictions de Dieu et l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'honorent pas Dieu dans ce qu'ils font. Nous devions honorer Dieu au quotidien, dans tout ce que nous faisons et partout où nous sommes. En le faisant, Dieu dit qu'il va aussi nous honorer. Dieu dit que si nous le méprisons, il va aussi nous mépriser. Et mépriser Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement fouler aux pieds l'honneur qui est dû à Dieu pour n'importe quelle raison que ce soit. La vérité, c'est que beaucoup ne veulent pas suivre le Seigneur tout simplement du « qu'en dira-t-on ?» Beaucoup ont parfois honte de se déclarer chrétien. Beaucoup ont honte de dire qu'ils sont chrétiens dans les lieux de service. Parce qu'ils ont peur du « qu'en dira-t-on ? » On dira que toi aussi tu es avec ces gens, tu es de ces gens-là. La Bible nous dit clairement que si vous méprisez Dieu, si vous avez honte de lui, lui aussi il aura honte de vous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va déclarer. Donc vous ne deviez pas avoir honte de déclarer votre foi publiquement, de dire que vous êtes chrétien. Et surtout, vous deviez tout faire pour honorer Dieu en tout temps et en tout lieu, afin que Dieu aussi en retour puisse vous honorer. Et en réalité, nous pouvons parfois perdre beaucoup de choses, beaucoup de privilèges et des avantages à cause du Seigneur Jésus. Oui, parce que je sais qu'on peut même refuser un travail, un service à quelqu'un tout simplement parce qu'il est chrétien ou bien parce qu'il a refusé de corrompre, de monnayer. Mais Dieu qui voit tout, lorsque c'est à cause de lui que vous refusez la corruption, Dieu se chargera de vous récompenser d'une manière ou de l'autre. On n'a jamais perdu en servant Dieu, en honorant Dieu. D'ailleurs, nous allons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 10, où l'apôtre Pierre et les apôtres vont poser une question très très importante au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ va leur répondre. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 28 au verset 31. Frère Yannick, si tu es à la page de cette portion sans écriture, tu vas lire pour nous tous.
Il est écrit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou ses pères, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des enfants, des terres, des frères, des sœurs, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen.
Amen. Ici, ce sont les apôtres qui viennent voir Jésus et lui disent, Seigneur, nous avons tout quitté, tout abandonné pour te suivre. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et avec même des persécutions et surtout dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous rassure ici qu'en réalité, nous ne pouvons jamais perdre en le suivant. Et il dit que tout ce que nous allons perdre, il se chargera de nous donner cela au centuple. Donc c'est parfois parce que les gens ont une vision très courte qu'ils ne sont pas prêts à perdre la moindre chose pour le Seigneur, pour le nom du Seigneur. C'est avoir une vision vraiment très très courte. Très chers auditeurs, mesdames et messieurs, c'est vrai, si vous honorez Dieu, il va aussi vous honorer. Si vous perdez une position sociale ou quoi que ce soit à cause de son nom et à cause de la bonne nouvelle, le Seigneur se chargera de vous rendre cela au centuple parce qu'il sait que c'est à cause de son nom que vous avez perdu cela. Que vraiment la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Restez tout simplement à l'écoute. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Et la prochaine histoire, c'est l'histoire de certains gamins qui avaient décidé d'aller dans un lieu de culte juif. Oui, un lieu de culte juif. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte de ce lieu de culte, le portier leur a fait comprendre que on n'entre jamais dans ce lieu sans avoir un chapeau. Et malheureusement, il n'avait pas de chapeau, mais le portier a dit qu'il pouvait les louer les chapeaux s'ils étaient vraiment décidés à entrer dans ce lieu de culte. Et c'est ainsi que, comme ils étaient tellement engagés, ils ont loué chacun un chapeau et ils sont entrés dans ce lieu de culte juif. Et pendant tout le culte, ils étaient vraiment très très attentifs. Ils avaient vraiment l'air très pieux. Et ils étaient également concentrés sur tout ce qui se disait. Et on aurait dit croire que c'était vraiment des habitués ou des vrais croyants. Et après le culte, ils sont sortis, ils ont remis les chapeaux. Et ils ont continué à mener la vie des gamins comme d'habitude. Et l'un des gamins qui avait fait cette expérience a dit que lorsqu'il se souvient de cette histoire, ce qui le frappe, c'est que lorsqu'ils étaient à l'intérieur, ils ressemblaient vraiment à des gens très très pieux qui s'efforcent même de craindre Dieu, alors qu'en réalité, ils n'en étaient rien. Parce que lorsqu'ils sont sortis, ils ont oublié tout cela. Et c'est ce qui se passe en général autour de nous. Beaucoup de gens, lorsqu'ils vont dans les lieux de culte, particulièrement le dimanche, ils ont l'air très pieux. Mais malheureusement, beaucoup, lorsqu'ils sortent, ils abandonnent Dieu là-bas dans ce temple et ils continuent à mener leur vie comme bon les semble. C'est ainsi qu'on peut parler des chrétiens du dimanche. Oui, certains chrétiens qui ne sont chrétiens que le dimanche. Ou chrétiens lorsqu'ils sont dans un temple. Lorsqu'ils sortent du temple, ils deviennent des voyous, des adultères, les menteurs, les voleurs. Mais lorsqu'ils sont à l'église, comme on le dit vulgairement, ils sont des chrétiens. Mesdames et messieurs, ce n'est pas servir Dieu. Tout ça, c'est la religion. Et la religion ne sauve pas. Dieu n'est pas Dieu seulement dans le temple. Dieu n'est pas Dieu seulement le dimanche. Dieu est Dieu partout, en tout temps et en tout lieu. C'est pour cette raison que beaucoup de gens seront surpris le jour du jugement de comprendre le Seigneur les dit que je ne vous connais pas, alors que chaque fois ils étaient dans des temples religieux. Parce qu'il ne suffit pas d'entrer dans un temple et d'avoir l'air très pieux, de faire le holy holy le dimanche. Non, la foi chrétienne se vit au quotidien. Vous n'êtes même pas obligé d'aller dans un temple pour montrer que vous êtes chrétien. C'est par votre vie au quotidien, c'est dans tout ce que vous faites au quotidien que vous allez montrer votre foi, que vous allez montrer que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Oui, c'est très très important. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans les temples, particulièrement le dimanche, et que le dernier jour, le Seigneur vous dise carrément que je ne vous connais pas. Quelle déception, quelle tristesse. Oui, parce que je sais que beaucoup croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils partent au temple le dimanche. Non. La foi, c'est une affaire personnelle avec Dieu, dans le cœur, et cela se vit au quotidien. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à la religion, à quelques musiques religieuses le dimanche, et après, on enferme tout cela dans un placard, on attend le dimanche prochain. Non, 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 ce n'est pas de cette façon que vous allez servir Dieu, c'est la religion. Et la religion ne sauve pas. Frère Yannick, si tu es dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, tu peux lire cela pour nous tous, Matthieu chapitre 7, verset 21.
Il est écrit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur.
Oui, tu peux relire cette portion de Sainte Écriture. Oui, relis, frère Yannick.
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Amen. La Bible nous dit clairement ici de la bouche du Seigneur Jésus-Christ que ce ne sont pas tous ceux-là qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Donc il ne suffit pas de dire « Seigneur », il ne suffit pas d'aller dans un temple religieux. Non, il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est mener une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui montre qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est un chrétien en tout temps et en tout lieu. Oui, et tous les jours. Tous les jours. C'est très très important. Et dans 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets, 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets, qu'est-ce qui est écrit là?
Il est écrit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, crècres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Vous voyez, très chers auditeurs, très chers auditeurs, mesdames et messieurs, la Bible nous dit clairement ici que beaucoup ont que l'apparence de la piété, l'apparence. Donc il ne suffit pas de porter les habits blancs pour montrer qu'on est chrétien. Il ne suffit pas de porter même le col blanc ou le col pastoral ou les soutanes pour montrer qu'on est un serviteur de Dieu. Ça, c'est l'apparence. C'est dans les actes, dans les œuvres au quotidien qu'on reconnaît un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu. Oui, malheureusement, l'homme est champion de l'apparence. L'homme soigne l'extérieur. Mais la Bible nous dit que c'est l'apparence de la piété. Et régner, ce qui fait la force, c'est quoi? C'est régner la vérité. C'est régner la pratique de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est la force de la foi. Les œuvres au quotidien, la pratique, c'est ça qui donne une force, un sens réel à la foi. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui peuvent nous donner des grandes leçons pour la vie. La prochaine histoire, c'est l'histoire de ce maçon qui un jour, pour se moquer d'un pasteur, lui a donné une bouteille de vin pour qu'il puisse le boire. Et il se moquait de ce pasteur avec ce qui était tout autour de lui. Il a dit, prends et bois, monsieur le pasteur, cette bouteille d'alcool. Le pasteur va lui dire, si moi je veux, je peux bien le boire. Par contre, toi, tu es obligé de boire. Tu ne peux pas t'en passer de boire. Et le maçon va lui dire, ne me dis pas tout de même que je suis obligé de boire, même si je ne veux pas. Le pasteur n'a plus dit quoi que ce soit. Mais voilà qu'un jour, ce même maçon se précipite dans le bureau du pasteur en lui disant, en réalité, l'autre jour, vous aviez raison. Je ne peux pas du tout m'en passer de boire. Je suis un esclave de l'alcool. S'il vous plaît, sauvez-moi. C'est ainsi que le pasteur a décidé de prier avec lui afin qu'il puisse être délivré de l'emprise de l'alcool. C'est vrai, ça n'a pas été du tout facile, mais par la grâce de Dieu et avec un peu de persévérance, cet homme qui était esclave de l'alcool a été délivré. Beaucoup de gens sont esclaves de beaucoup de choses, même s'ils ne peuvent pas l'avouer. Beaucoup sont esclaves des drogues, du tabac, de l'alcool, de la bière et toutes sortes de pratiques qui les détruisent au quotidien et qui détruisent leurs familles. Mais si vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, Il faut aller rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Un chrétien ou un homme de Dieu sincère. Nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 36. L'évangile de Jean chapitre 8, le verset 36. Frère Yannick, si tu es à la page, tu peux lire cela pour nous tous. Oui, nous sommes tous des esclaves d'une manière ou de l'autre. Esclaves du vol, du mensonge et toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas citer. Frère Yannick, qu'est-ce qui est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 36?
Il est écrit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Parole du Seigneur.
Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que si lui, il vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de nous affranchir, de nous libérer. Et nous allons lire dans le psaume 142, le verset 8. Psaume 142, le verset 8. Frère Yannick, si tu es à la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. »
Alléluia. C'est une prière que vous deviez faire, vous qui êtes sous l'emprise de quelque chose. Peut-être le sexe opposé, l'adultère, la fornication, l'impudicité, l'immoralité, toutes sortes de drogues, de l'alcool, le mensonge. Criez, faites cette prière en disant, « Seigneur, sors-moi de ma prison. » Oui, être en prison ne veut pas forcément dire être dans les quatre murs. Beaucoup de gens ne sont pas dans des prisons en murs, mais sont vraiment des vrais prisonniers. Prisonnier des mauvaises habitudes, prisonnier du mal, prisonnier du péché, prisonnier de toutes sortes de vices. Criez, fais cette prière. Frère Yannick, que tu peux relire cette portion de Sainte Écriture.
Si mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien, parole du Seigneur.
Alléluia. Oh Dieu, tire mon âme de sa prison. Si mon âme, fais cette prière aujourd'hui même, très chers auditeurs, très chers auditeurs, mesdames et messieurs, et le Seigneur vous écoutera, il vous exaucera, parce que le Seigneur Jésus est venu pour rendre les gens libres. Et il dit que s'il vous rend libre, vous serez réellement libre.
Amen.
Et nous allons continuer à nous intéresser à ces petites histoires qui nous donne des grandes leçons pour la vie. La dernière histoire, c'est l'histoire de ce peintre qui avait fait un tableau. Et sur ce tableau, il y avait une porte. Et quelqu'un est venu et a commencé à contempler ce tableau. Et après avoir contemplé ce tableau, il a commencé à critiquer. Il a dit au peintre que tu as fait un beau tableau, mais il y a quelque chose qui manque à ce tableau. Et ce qui manque, c'est tout simplement le poignet. Et le peintre va lui répondre que il n'y a rien qui manque à ce tableau. C'est une porte, mais qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur, parce qu'on ne peut l'ouvrir que de l'intérieur. Et il va dire que ce tableau, ou en particulier cette porte qui est peinte sur ce tableau, représente tout simplement le cœur de l'homme. Dieu ne peut pas entrer dans le cœur de l'homme si l'homme ne l'ouvre de l'intérieur. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme facilement. Parce que lui, il ne peut pas forcer pour entrer. C'est à l'homme de lui ouvrir pour le laisser entrer. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va dire clairement dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Notez très bien Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Frère Yannick, si tu as la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, par le Seigneur.
Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. En ce moment-ci, le Seigneur est à la porte de votre cœur, de votre vie, et il frappe. Puisqu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur, le Seigneur ne peut pas forcer pour entrer dans votre vie. Le Seigneur n'est pas un bandit ou un brigand qui casse les portes des gens. Il frappe et il attend que l'on ouvre. Si vous n'ouvrez pas, il continue son chemin. Oui, c'est pour cette raison que les gens sont dans les misères, les souffrances, toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout agréables à vivre. Et parfois on se demande, mais où est Dieu? Dieu ne peut pas agir si l'homme ne lui donne pas la possibilité d'agir dans sa vie. Dieu ne peut pas vous sauver si vous ne lui permettez pas de vous sauver. Dieu ne peut pas entrer dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans votre concession, si vous n'ouvrez pas la porte. Vous deviez savoir que Dieu, lorsqu'il frappe, il attend que l'on ouvre. Si vous n'ouvrez pas, il continue sa route. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Dieu a toujours voulu entrer dans la vie des hommes. Dieu a toujours voulu habiter dans le cœur de l'homme. Dieu a toujours voulu habiter dans nos familles, dans nos nations. Dieu a toujours voulu habiter dans nos concessions. Malheureusement, parfois, nous refusons de lui ouvrir. Et conséquence, Dieu s'en va. Et quand Dieu n'est pas là, c'est le diable. Si vous n'ouvrez pas à Dieu, sachez que le diable prendra place. C'est aussi simple que cela. Donc c'est pour vous encourager, vraiment, à savoir que si vous décidez à tout moment d'inviter le Seigneur Jésus à entrer dans votre vie, dans votre cœur, il le fera. C'est à vous de le décider. Et à tout moment, il est disponible. Il a dit, je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi. À tout moment, si vous le voulez, très chers auteurs, invoquez le nom du Seigneur et vous verrez qu'il agira. Il n'attend que votre autorisation pour entrer dans votre cœur, pour entrer dans votre vie. Et vous deviez vraiment, vraiment le savoir. Parce que je sais que beaucoup ignorent ces petites choses qui sont pourtant capitales. Frère Yannick, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre partage de ce jour. Est-ce que tu as un mot pour nos chers auditeurs et auditrices?
Tout simplement les encourager tout en disant de ne pas laisser vraiment l'accès au diable, mais d'inviter le Seigneur Jésus, donc de faire en sorte que le Seigneur Jésus entre dans vos vies pour être le maître, pour souper avec vous. Car rien n'est plus merveilleux que d'inviter le Seigneur dans sa vie. Amen.
Amen. Vous tous qui voulez inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison, nous pouvons faire ensemble cette courte prière. Seigneur Jésus, tu connais toutes ces multitudes qui veulent, Seigneur, que tu entres dans les cœurs, dans les vies, dans les maisons, dans les familles. Seigneur, tu connais les cœurs de toutes ces multitudes plus que quiconque. Ceux-là qui désirent vivement que tu entres dans les cœurs, que tu entres dans les vies, pour les sauver, pour les transformer, pour les bénir, pour les délivrer. Viens, fais-le. Toi-même, tu as dit que tu es à la porte, tu frappes. Si quelqu'un entend et ouvre, tu entreras. Seigneur, si tu connais ceux-là qui sont en train de vouloir vraiment t'ouvrir les cœurs, entre, entre vraiment, délivre-les, pardonne-les, sauve-les. Oh Dieu, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu promets, tu le fais. Seigneur, merci. Parce que tu le feras. Toute la gloire, les honneurs vont te revenir à toi et rien que à toi seul. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans nos familles jusqu'à ce jour-ci.
dans notre nation, même dans notre vie, dans notre département. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons rien à te donner, nous te disons tout simplement merci. Nous voulons tout simplement te prier que tu continues à te manifester jour après jour, surtout en permettant que chaque instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, de ta parole, de ta vérité qui va nous affranchir, Seigneur, et qui va ouvrir grandes les portes des cieux sur nous, les portes des multiples bénédictions que tu as préparées pour ceux-là qui te craignent et qui te servent. Merci Seigneur Jésus, parce que tu agiras. Merci de te souvenir une fois de plus de toutes ces multitudes qui sont dans les prisons, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons souffrant. Ô Dieu, merci de te souvenir de tous ces orphelins, de toutes ces veuves, de tous ces sans-abri, de tous ces laissés pour compte de la société. Merci de te souvenir d'eux. Toi qui es un Dieu, Seigneur, qui ne se réjouit pas lorsque tes créatures souffrent. Merci d'intervenir puissamment et que toute la gloire te revienne à toi et rien qu'à toi seul, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, nous allons nous séparer des moments à l'autre contenu du temps qui nous est imparti. D'ici là, portez-vous vraiment très très bien et surtout, ne ratez pas le prochain rendez-vous et que la bonne main du Seigneur soit vraiment sur vous tous. Amen, amen, amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr.
C'était l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais. Ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.